Qui je suis comme artiste et comme personne? Ben, comme pratique artistique, c'est surtout de la poésie qui m'a interpellée longtemps, puis la dramaturgie. La dramaturgie, ça a été quelques périodes de ma vie, mais je suis quelqu'un qui regarde le monde à travers les yeux poétiques le plus souvent. Donc, j'ai fait de la poésie écrite, j'ai fait du slam poésie, en compétition, en scène ouverte. Mais en parallèle, j'ai toujours comme fait des projets, j'ai géré des projets culturels, j'ai géré des organismes aussi, parfois bénévolement, parfois de façon officielle, professionnelle. Donc, je suis surtout une passionnée, j'adore la rencontre avec l'autre. Donc, ce qui marque ma pratique, ce qui m'a le plus plu dans les projets que j'ai faits, c'est vraiment quand je suis en dialogue avec un autre artiste. J'ai travaillé avec Geneviève Duong en danse contemporaine, j'ai travaillé avec Daniel Doucet en art visuel. J'ai vraiment j'ai exploré avec des musiciens aussi, mais comme je ne chante pas, on a exploré différentes choses. Là, je pense entre autres à Paul Parent, mais on n'a jamais comme arrêté quelque chose. On a fait des petits spectacles. Mais là où je m'épanouis le plus, je pense dans le dialogue artistique, vraiment. T'sais, oui, je suis gestionnaire culturelle, mais dans le fond, dans ma pratique artistique, c'est vraiment au quotidien. En fait, je peux écrire des bribes de poésie, des bribes de réflexion qui ont toujours un rythme, une sonorité quelconque. C'est vraiment des vers libres. Je ne suis pas très arrêtée à la rime et à la forme stricte, quoique je me suis déjà prêtée, puis j'aime ça. Mais ça a vraiment beaucoup été la poésie de l'oralité qui m'a imprégnée. J'ai quand même publié un livre qui a été publié avec Sue Mills comme photographe, puis moi comme récit poétique, qui a été publié chez Neige Galerie, une petite maison d'édition qui a eu quelques années. J'ai aussi fait une traduction littéraire d'un artiste de récit graphique, C.P. Vandenberg. Donc, il y a vraiment comme cette volonté-là d'avoir à la fois sur le texte imprimé et sur la scène des dialogues. D'ailleurs, j'ai fait deux beaux projets avec Geneviève Duong dans ce contemporaine, c'était Dialogue de soi, autour de l'alimentation. Donc, notre rapport à l'alimentation puis à la rencontre de l'autre pendant qu'on s'alimente, mais à notre corps, à la santé, à la société aussi. Donc, on a fait des laboratoires d'exploration. J'adore ça. Travailler en recherche-création, j'aime beaucoup ça. Et on en est venu à faire un spectacle performatif, mais où le public pouvait influencer le résultat final, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais c'est la performance dont vous êtes le héros. Mais on a fait aussi avec Geneviève Duong, Geneviève Robitaille, Christian Canel à l'époque, Carl Bernier, un grand projet interactif avec une grande scénographie qui appelait la bande dessinée, la poésie, la danse contemporaine à interagir avec la vidéo au Grand Théâtre de Québec à l'extérieur. Donc, j'adore ça, les moments où on... Puis j'aime aussi improviser. Puis pourtant, ça me terrorisait quand j'étais enfant. Et depuis que j'ai rencontré Geneviève Duong et Daniel Doucet, j'ai eu plusieurs occasions d'improviser autour de l'art, toujours dans des rencontres aussi, puis j'adore ça. Donc, c'est une mise en danger pour moi, mais il émerge tellement des belles perles quand on se met en danger que ça, j'aime beaucoup ça aussi. Donc, je dirais dialogue, mise en danger, puis la pratique, bien, c'est ma voix, puis l'écriture, évidemment. Bien, en fait, j'ai commencé à écrire, puis à m'intéresser à la culture toute petite. J'étais enfant, je faisais du ballet classique. J'étais sur la scène déjà en ballet classique, je rêvais. J'avais 3-4 ans et j'ai dit à ma mère, je vais faire ça plus tard quand j'ai vu une vidéo d'une ballerine. J'ai pas fait ça parce que j'étais opérée pour le dos, j'ai dû arrêter de danser. Mais tout de suite, c'est comme si le fait d'être contrainte dans mon corps m'a poussée à l'écriture. Donc, j'ai rempli des carnets d'écriture. J'habitais sur le bord de la rivière à Terrebonne et je me voyais sur le bord de la rivière et j'écrivais de la poésie tout le temps. J'ai commencé à faire du slam après que j'ai eu mon premier BBI ou mon deuxième. Donc, ça a été tard. Oser lire la poésie en public. J'ai été même invitée par quelqu'un. Je m'intéressais beaucoup à Grand Corps Malade puis à d'autres slameurs. Donc, il y a quelqu'un qui est venu chez moi puis qui m'a invitée à participer à la naissance de la scène slam dans la Naudière, ce qu'on a fait ensemble. Donc, j'ai commencé dans un bar crade de Joliette, vraiment bizarre. Mais finalement, j'ai adoré ça. J'avais étudié en théâtre là, en parallèle pour faire surtout de la mise en scène, de l'enseignement, tout ça, mais j'ai vraiment adoré le rapport à la scène avec le public. Donc ça m'a mené finalement à faire une pratique de slam et d'écriture pendant un bon bout de temps. J'ai participé à plusieurs collectifs qui ont été imprimés, publiés. Puis à force de faire des choses en parallèle et de donner beaucoup de mon temps, puis de travailler un peu en traduction, travailler un peu donc dans différents domaines en communication, tout ça, c'est comme si la vie m'avait apporté le gros cadeau qu'a été le Salon du livre, parce que je suis devenue directrice adjointe, dans le fond, en 2018. Et là, je me suis rendu compte qu'au sein de la corporation de Salon de vie, je pouvais tout faire, mes passions. Moi, j'aime beaucoup, mon premier courriel, c'est « Oratoi ». J'aime beaucoup mettre les autres en relation, comme me mettre moi aussi en relation avec les autres. Donc, j'ai pu, à travers le salon, faire briller les autres personnes. Donc, le côté metteur en scène en moi venait aussi. Je lisais énormément, je lis toujours, donc je pouvais avoir accès à tout ce qui se passe en littérature, dans l'écosystème culturel québécois et canadien, en livres. Donc, je me suis mise à utiliser toutes mes connaissances d'auteur, de poète, d'éditrice, de communicatrice au sein d'un seul travail où j'étais quand même payée correctement. Donc ça a été vraiment un beau cadeau. Puis bien, quand je suis arrivée, il y avait un changement de direction, évidemment, puis on a mis en place la Maison des arts littéraires. Mais ça répond aussi à mon plaisir à moi que le livre, c'est pas juste le livre, mais il devient vivant. Donc, je l'ai déjà mis en danse, le livre, je l'ai déjà mis en performance. Mais là, on pouvait en faire différentes sortes de choses en invitant d'autres artistes. Donc, on a mis en place la Maison des arts littéraires en 2020. Puis je suis vraiment fière de ce projet-là, qui était un petit peu dans la tête de l'ancienne directrice Anne-Marie Trudel, puis l'ancien président du CA, Mark Hankins, mais que moi, Clara Lagacé, puis l'équipe qui a suivi après, on a vraiment mis au monde. Et ça fait 5 ans maintenant de ça. Donc, non seulement le Salon du livre continue à faire des choses traditionnelles, le Salon du livre, mais aussi des spectacles hors les murs et tout, ce qui me ressemble beaucoup. Donc, la personne en moi de performance et de culture vivante est là, mais aussi la Maison des arts littéraires, toute l'année, permet aussi... au public, puis je vais vous dire à moi aussi, de bénéficier vraiment d'une offre culturelle très surprenante. Que ce soit des expositions, des installations, des performances ou des spectacles plus continus, plus préparés, je trouve que ça apporte une richesse incroyable, puis ça répond dans le fond à mes passions, puis on découvre de plus en plus aux passions de plein de personnes là, à Gatineau puis dans les environs. Donc, je dirais que l'arrivée du Salon du livre confirme tout ce que j'ai construit avant, puis m'a permis de vivre 7 années quand même jusqu'ici, au moment où on se parle, d'apprentissage, de rencontres extraordinaires. On a tellement de beaux écosystèmes culturels au Québec puis en Outaouais. Donc, ça m'a permis des rencontres qui vont me marquer pour le reste de ma vie, je pense. Moi, mon rêve, c'est que le salon se porte très, très bien sans moi parce qu'on aura une structure tellement pérenne que ça continue à se construire sur ça. Puis c'est ce qui est en train de se passer, je pense. Donc, on n'a pas besoin de moi. On a un organisme de 46 ans de vie extraordinaire. On va continuer à le fréquenter. Plus on réussit, plus on doute. Le syndrome de l'imposture d'Élisabeth Cadoche, Anne de Montarlot. Cette phrase-là ressemble beaucoup à l'évolution que j'ai vécue de l'innocente jeune poète de sa chambre sur le bord de la rivière jusqu'à aujourd'hui. Et j'écris de moins en moins, un peu à cause de ça. Parce que, pas que j'ai eu une grande réussite, mais j'ai publié quelques ouvrages, mais j'ai surtout côtoyé des gens qui réussissent bien et qui ont une humilité incroyable. Donc, avec la jeunesse puis l'innocence vient une espèce d'arrogance. On pense qu'on connaît, qu'on sait tout. C'est pareil pour les enfants qui deviennent ados et tout. Mais dans la création, dans la pratique aussi, on pense qu'un éditeur ne devrait pas toucher à une ligne de notre texte. Puis là, quand on commence à être publié puis à rencontrer des éditeurs, puis une fois qu'on a accepté avec humilité les premières corrections, on se rend compte que c'est meilleur. Et on se rend compte qu'on veut ça, puis on recherche les commentaires critiques. Puis on s'entoure de gens professionnels qui réussissent, puis ils nous amènent à être meilleurs. Mais si on a été meilleurs, puis on a trouvé vraiment la perle... Moi, mon livre « Larmes », qui a été publié en 2018, si je ne me trompe pas... Non, 2013, mon Dieu, je ne me souviens pas de la date. Mais pour moi, il n'est pas parfait, mais il est exactement ce qu'il doit être. Et je suis très fière encore aujourd'hui de tous les mots qui sont là, qui ont été retravaillés vraiment avec les gens qui m'ont accompagnée. Je pense à Guy Jean, je pense à Michel Côté, je pense à Éric Charlebois. Et il a atteint son summum dans l'écriture de ce que je pouvais donner en poésie à ce moment-là. Puis encore aujourd'hui, je le relis puis je suis émue parce que je suis fière de ça. Mais la barre est haute après. Donc déjà, envers moi-même, la barre est haute, je trouve. Mais ça prend du travail, puis on n'est pas toujours... Des fois, on est paresseuse, hein? Puis on n'a pas toujours le goût de reprendre tout ce travail-là, puis d'aller aussi loin que ça. Mais d'autre part, je lis beaucoup, et je lis beaucoup de poètes que j'admire, et je côtoie beaucoup d'artistes que j'admire. Et qui suis-je, moi, pour rajouter un autre poème dans la mare des poèmes qui existent? Qui suis-je pour acheter un autre livre dans la mare de livres qui existent? Puis quand quelqu'un me dit ça, je fais, « Ben non, c'est ta voix à toi qu'on a envie de lire et d'entendre. » Mais quand ça vient à moi, j'ai comme... On appelle le surmoi avec Freud, là, mais j'ai un immense surmoi. Il y a plein de gens qui regardent par-dessus mon épaule, dans ma tête, hein, puis qui font comme « Oui, mais ça pourrait être meilleur, tu pourrais couper des mots, tu pourrais ajouter des choses, tu pourrais... Attention aux clichés, attention à... » Puis j'entends tous les commentaires qui m'ont accompagné, qui m'ont amené à être meilleur, mais c'est lourd. Donc, il faut être un peu innocent pour continuer à créer, je pense. Il faut se dire, ben tant pis, puis être un peu comme plus porté par une impulsion ou par un projet personnel très fort, puis se dire, on met ça dans l'univers, puis la phrase, tant que c'est le plus intime que t'es, le plus universel que t'es, c'est quelque chose qui m'aide à vivre à travers les périodes où je me sens vraiment imposteur dans la création.
Tu devais donner un seul mot comme conseil, quel serait-il?
Je dirais intégrité.